Bonjour sœur Christine Marie, bonjour mes sœurs, merci d'être à nouveau avec nous pour notre émission L'Esprit franciscain. Sœur Christine Marie, je vous laisse la parole.
Merci Anne-Sophie, je vais en fait laisser la parole à sœur Marie Bruno qui, à son habitude, va faire le lien avec les émissions précédentes pour nous introduire au thème d'aujourd'hui. Merci sœur Marie Bruno, à toi.
Nous continuons à lire la légende des trois compagnons. Le mois dernier, nous avons vu François quêter des pierres et retrousser ses manches pour reconstruire l'église Saint-Damien. Nous avons vu aussi qu'il a fait un pas de plus en quêtant sa nourriture pour être fidèle à sa volonté de suivre le Christ pauvre. Nous le retrouvons donc à Saint-Damien. Regardons, écoutons.
Au temps où il travaillait sans relâche à la restauration de l'église Saint-Damien, comme il voulait que les lampes y fussent perpétuellement allumées, il allait à travers la cité en mendiant de l'huile. Plusieurs ouvriers travaillaient avec lui à la réparation de l'église. Il interpellait d'une voix forte, dans la joie de son âme, les voisins et les passants et leur disait en français « Venez, aidez-moi à travailler à l'église Saint-Damien. Elle deviendra un couvent de dames dont la renommée et la vie glorifieront dans l'église universelle notre Père des cieux. » Voilà comment, animé de l'esprit prophétique, il annonça des choses qui se réalisèrent. C'est, en effet, dans ce lieu sacré que l'ordre fameux et si admirable des religieuses appelées les pauvres dames fut heureusement fondé par le bienheureux François environ 6 ans après sa conversion. Leurs règles édifiantes et leurs glorieuses institutions ont été, dans la suite, approuvé par l'autorité du siège apostolique, par le pape Grégoire IX de sainte mémoire, alors évêque d'Ostie.
Chers auditeurs, vous l'entendez, nous sommes parvenus à un point bien particulier de l'itinéraire de saint François, de son itinéraire de conversion. Cet épisode connu sous le titre « La prophétie de Saint-Damien ». Vous comprenez bien que ce passage nous touche particulièrement en tant que Clarisse, puisque c'est l'annonce que François fait sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur de l'arrivée de Claire et de ses sœurs. Un passage tellement important pour Claire elle-même, d'abord, bien évidemment, qu'elle en fait mention dans le testament spirituel qu'elle nous a laissé. Nous vous proposons donc d'entendre maintenant comment Sainte Claire elle-même relate cet épisode.
En effet, au temps où le saint n'avait encore avec lui ni frère ni compagnon, presque aussitôt après sa conversion, au temps où il reconstruisait l'église de Saint-Damien, visité là par le Seigneur et rempli de ses consolations, qui le décidèrent à quitter définitivement le monde. C'est alors que, dans la joie de l'Esprit-Saint et avec le secours de ses lumières, il fit sur nous cette prophétie dont le Seigneur a réalisé ensuite l'accomplissement. Du haut du mur de l'église, il s'adressait en français à quelques pauvres qui stationnaient là et il leur criait « Venez, aidez-moi à travailler pour le monastère de Saint-Damien, parce qu'il viendra ici des religieuses dont la vie sainte et la renommée stimuleront les hommes à glorifier notre Père des cieux dans toute sa sainte église. »
Merci, sœur Claire-Marie, pour cette lecture d'un passage du testament de Sainte Claire, donc tout au début du testament. Et vous avez peut-être remarqué, chers auditeurs, la pointe de fierté finalement dans ce récit de Claire, qui nous dit que eh bien François a prophétisé l'arrivée des sœurs et leur vocation à une période où François n'avait encore avec lui ni frère ni compagnon. Donc le Seigneur a donné à François la connaissance spirituelle de l'arrivée des sœurs avant même que lui, François, n'ait eu la joie d'accueillir ses premiers frères. Mais là n'est sans doute pas l'essentiel. Venons-en au cœur de cette prophétie. Je vous relis la phrase de François, donc qui interpelle en fait les pauvres qui sont à proximité de Saint Damien par ces mots: venez, aidez-moi à travailler pour le monastère de Saint Damien, parce qu'il viendra ici des religieuses dont la vie sainte et la renommée stimuleront les hommes à glorifier notre Père des cieux dans toute sa sainte Église. Alors c'est formidable parce que nous avons ici finalement un condensé de ce qu'est notre vocation. Il s'agit que notre vie soit une vie sainte, de sorte que la renommée de la communauté soit un stimulant pour les hommes à glorifier le Père des cieux dans toute sa sainte Église. Voilà. Donc un appel à la sainteté, et je dirais, voilà, c'est ce qui nous caractérise, ça n'est pas d'aller sur les routes, d'annoncer l'Évangile par une proclamation, ça n'est pas d'enseigner les hommes, de les former, je ne sais, à la théologie ou autre, ça n'est pas d'accomplir un apostolat particulier. La mission des Clarisses dans l'Église, c'est finalement de rayonner par la sainteté de vie et d'encourager les hommes à glorifier Dieu à cause de cette sainteté de vie qui, manifestement, n'est pas notre fait, mais l'œuvre de Dieu en nous. Alors, ce qui est intéressant et ce que je vous propose en prolongement, c'est d'entendre maintenant le témoignage qui était rendu du vivant de Claire par Thomas de Celano. Thomas de Celano, c'est l'un des biographes de François. Il a écrit deux vies, qu'on appelle donc la Vita Prima, la première vie, et puis la Vita Segunda, donc la seconde biographie. Ce que nous allons vous donner à entendre maintenant, c'est un extrait de la Vita Prima, au paragraphe 18 à 20. Donc là, c'est une biographie de Saint François. Mais dans cette biographie de François, Thomas de Celano rend témoignage à justement la sainteté de vie de Claire et des premières sœurs. Et il est intéressant de voir comment Thomas de Celano dit que Claire est la base d'un noble édifice construit en pierre très précieuse. Donc ici, il ne s'agit plus tant de la restauration matérielle de l'église de Saint-Damien, mais de ce que furent les sœurs dans ce monastère en tant que pierre vivante, sachant que Claire en était un petit peu la base. C'est le terme utilisé par Thomas de Celano. Et Thomas de Celano donc va relever, va pointer, pourrions-nous dire, cette vertu qui font le rayonnement de la communauté. Alors c'est ce que je vous propose de parcourir un petit peu rapidement. La première de ces vertus, nous dit Thomas, est la plus vivace de toutes, c'est une mutuelle et continuelle charité entre les sœurs. Une charité qui unit toutes les volontés, si bien que, quel que soit le nombre des habitants du monastère, ce sont les mêmes vouloirs et les mêmes renoncements qui ne forgent qu'une seule âme de toutes ces âmes si diverses. Donc, le premier témoignage que rend une communauté, Et donc, cela vaut pas seulement pour la communauté primitive des Sœurs de Saint-Damien, mais bien sûr pour toute communauté de Clarisse aujourd'hui, du coup aussi pour toute communauté chrétienne. Le premier témoignage rendu, c'est celui de la charité. C'est ce que Jésus lui-même nous a laissé hein, comme appel, comme interpellation, en nous disant, eh bien, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Voilà. Donc, rendre témoignage par notre unité, alors même que, comme le dit François dans un autre texte, qui s'appelle « Laudite Poverelle », c'est une sorte de petit poème ou de chant, dans lequel il commence par dire aux sœurs, bien, écoutez-moi, petite pauvre, vous que le Seigneur a rassemblé de tant de provinces et de pays. Et c'est vrai que notre communauté, comme toute communauté, eh bien, est constituée de sœurs qui, non pas qui se sont choisies parce qu'elles se trouvaient sympathiques, nous ne nous sommes pas cooptées, nous sommes rassemblées ici par appel de Dieu, en réponse à son appel, et c'est le Seigneur qui, jour après jour, eh bien, fait de nous une communauté de sœurs. Et cette unité dans la diversité témoigne au monde finalement que la fraternité entre les hommes est possible, puisque des femmes aussi différentes de par leur âge, de par leur éducation, de par leur sensibilité, enfin vous pouvez prendre tous les paradigmes possibles, eh bien incroyablement, ces femmes qui vivent ensemble 24 heures sur 24, ça tient. Ça tient la route et ça rayonne, voilà. Donc ça, c'est la première dimension qui est vraiment essentielle. Nous passons à la deuxième vertu que pointe Thomas de Celano, c'est l'humilité. Et que nous en dit Thomas ? Eh bien, c'est que l'humilité sauvegarde les dons et les bienfaits reçus du ciel, de sorte que ceux-ci, à leur tour, méritent l'octroi de toutes les autres vertus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, d'abord, et ça, tous les grands spirituels sont d'accord là-dessus, l'humilité est une vertu qui est elle aussi fondamentale. C'est-à-dire, vous avez beau avoir tous les talents, toutes les qualités, toutes les vertus possibles, si ces talents, ces qualités, ces dons, ces vertus ne sont pas enveloppés, portés par la charité, eh bien, l'édifice est comme anéanti. Hein. Et peut-être pouvez-vous le constater dans votre vie de tous les jours, bien si vous êtes entouré peut-être de personnes très talentueuses, mais si elles ne vivent pas ce talent, ce don, avec humilité, c'est-à-dire comme non pas quelque chose qui... qu'elle s'attribuerait à elle-même, qui viendrait d'elle, de leur propre mérite ou autre, mais comme étant vraiment quelque chose qui est reçu et qui est reçu pour être offert. Alors là, c'est vraiment, je dirais, la condition fondamentale pour que le don à la fois se développe et puis rayonne et porte du fruit. Sinon, ça devient, j'allais presque dire, excusez-moi l'expression, presque infect, vous voyez. Le don en est, encore une fois, anéanti, quoi. Anéanti par le vice de l'orgueil ou par le vice de l'appropriation. Voilà. Donc, cette deuxième vertu d'humilité est quelque chose qui contribue donc beaucoup aussi au rayonnement de la communauté. Et puis, Thomas dit, eh bien, ça obtient aux sœurs la grâce d'obtenir encore d'autres vertus. Donc, finalement, l'humilité multiplie en nous le bien. Une troisième vertu, c'est la virginité et la chasteté. Et François nous dit, Thomas de Celano nous dit à ce propos que la virginité, la chasteté, eh bien, épanche sur les sœurs d'abord comme un merveilleux parfum, de sorte qu'elles sont oublieuses de toute préoccupation terrestre pour se passionner pour la méditation des seuls mystères du ciel. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que... alors, virginité, chasteté. Donc, virginité, eh bien, on pense évidemment à une virginité corporelle, l'intégrité du corps. Hein. Les sœurs ont donné leur corps au Seigneur par le vœu de chasteté. Mais c'est aussi, c'est pas seulement le corps, c'est d'abord même le cœur. Hein. Donc, une chasteté du cœur qu'on pourrait aussi exprimer en termes de pureté du cœur. Et saint François a sur la pureté du cœur une très belle admonition dans laquelle il explique ce que c'est que la pureté du cœur. Et il dit, eh bien, ont vraiment le cœur pur, ceux qui méprisent les biens de la terre, recherchent ceux du ciel, et ainsi purifiés de tout attachement de l'âme et du corps, ne cessent jamais de voir et de rechercher rien d'autre que Dieu seul. Donc, ce dont Thomas de Celano fait ici l'éloge, c'est finalement la liberté intérieure que les sœurs acquièrent de par ce don qu'elles ont fait d'elles-mêmes à Dieu et qui leur permet d'orienter toute leur énergie dans la quête de Dieu seul. Voilà. Et donc, cette recherche eh bien, déploie en eux vraiment l'amour de Dieu et l'amour des autres. Quatrième vertu, la très haute pauvreté. Donc, là, on pourrait aussi le traduire en liberté intérieure, une liberté intérieure à l'égard de tous les biens matériels, finalement. Les sœurs sont, ayant fait le choix de suivre Jésus pauvre, Jésus humble et pauvre, eh bien, sont libres à l'égard des conditions matérielles de leur vie. Et cela leur permet, eh bien, là aussi, hein, d'être tout orientés vers la finalité qu'elles ont donnée à leur existence, chercher Dieu, aimer Dieu et vivre de lui, mettre leurs pas dans les pas de Jésus. Cinquième qualité, la mortification et le silence. Les sœurs de Claire vivent dans une atmosphère habituelle de silence. Elles mortifient quoi ? Elles mortifient peut-être leur curiosité, ce qui nous habite comme appétit de tout savoir peut-être, et puis aussi ce qui nous habite comme tendance à parler de tout et de rien, à bavarder, plutôt que faire de notre parole un espace de communication en profondeur et en vérité. Et en lisant ce passage, nous ne pouvons que penser à l'épître de Saint-Jacques, qui parle très bien de notre langue. Alors, Sœur Marie-Lise, est-ce que tu veux bien nous lire dans l'épître de Saint-Jacques ce qu'il nous en dit ? Je pense que ça peut nous aider. Et puis en plus, en ce temps de carême, ça peut nous donner aussi peut-être un point d'effort.
Donc, dans l'épître de Saint-Jacques, au chapitre 3, « Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. » Il est capable de réfréner tout son corps. Quand nous mettons aux chevaux un mors dans la bouche pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout leur corps. Voyez encore les vaisseaux. Si grands qu'ils soient, même poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail. Au gré du pilote. De même, la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde du mal, cette langue placée parmi nos membres. Elle souille tout le corps. Elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne. Bêtes sauvages et oiseaux, reptiles et animaux marins de tout genre sont domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l'amer?
Merci beaucoup, Sœur Marie-Liesse, de nous avoir donné à réentendre cette parole de Saint Jacques qui nous interpelle rudement et qui nous invite vraiment avec force à faire de notre langue un instrument de bénédiction, un instrument de louange et non pas, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, un instrument de médisance, de calomnie ou de vain bavardage. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à entrer dans cette conversion de nos langues. Merci encore pour cette lecture. Alors nous poursuivons donc, nous en étions à la cinquième vertu avec la mortification et le silence. Nous en arrivons maintenant à la sixième vertu soulignée par Thomas de Celano, c'est la patience. Thomas nous dit que les sœurs sont d'une patience si admirable que jamais la misère de leurs conditions de vie ou l'injustice de certaines malversations n'arrive à briser leur force d'âme ni même à l'ébranler. Voilà, donc dans patience, il y a pâtir, vous voyez. Donc être patient, c'est finalement endurer avec force, avec sérénité, avec une certaine douceur aussi, tout ce qui, les contradictions de notre existence, quelque forme qu'elles prennent. Hein. Il peut s'agir, là par exemple, Thomas mentionne la misère de leurs conditions de vie. Bon, effectivement, la vie à Saint-Damien devait être rude, hein, mais ça peut être aussi la maladie qu'il faut endurer avec patience. Ça peut être telle ou telle injustice subie. Et les injustices, il ne faut pas forcément penser à des choses très graves. Ça peut être quelqu'un de proche qui a mal interprété mon intention ou mon propos, quelque chose qui n'a pas été compris. Être patient face à ces adversités, endurer sereinement ces contradictions ces petites difficultés, ces difficultés plus ou moins grandes, dirons-nous, qui peuvent traverser nos existences, hein, ne pas nous laisser abattre à cause d'elles. Et enfin, nous en arrivons à la septième vertu, qui est en quelque sorte le couronnement de l'édifice. Il s'agit de la contemplation. Thomas nous dit que les sœurs ont mérité, enfin, de s'élever sur les sommets de la contemplation. C'est là qu'elles apprennent tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut éviter, là qu'elles atteignent au bonheur d'être ravies en Dieu durant les jours et les nuits qu'elles consacrent à la louange et à la prière. Donc tout ce que nous avons dit précédemment, la charité, l'humilité, la chasteté, la pauvreté, le silence, la patience, eh bien tout cela finalement contribue les sœurs à contempler Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette contemplation de Dieu, c'est le lieu aussi où très concrètement, les sœurs apprennent, donc elles apprennent du Seigneur, de son inspiration, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Donc, vous voyez, c'est, j'ai envie de dire, on ne décolle pas. La contemplation des sœurs les renvoie à un agir, à une certaine manière d'être et d'agir, à une qualité d'être et d'agir. Voilà pour le parcours des vertus, c'est-à-dire de ce qui finalement a contribué au rayonnement de la première communauté à Saint-Damien. Alors, je vous propose d'abord, en écoutant peut-être le témoignage que Sœur Marie-Liesse veut bien nous partager de l'écho que trouve en elle ce récit de la prophétie de Saint-Damien, et puis nous vous dirons, si le temps le permet encore, quelques mots de la prière de Claire.
Donc, le petit témoignage annoncé. Donc, il s'agit d'un témoignage personnel. Donc, c'est 2 ans avant mon entrée au monastère, au terme d'une année de vie dans une école de la foi, année durant laquelle s'était fait entendre l'appel à rayonner l'amour de Dieu autour de moi. Donc, je participais à une veillée de prière et partage de la parole de Dieu. L'évangile choisi pour cette rencontre était celui des béatitudes en Matthieu 5 et les quelques versets qui le suivent. Chacun était invité à partager le verset qui, ce soir-là, venait le rejoindre. Le verset qui m'avait touché le cœur était celui-ci. « Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Cette parole a longtemps habité ma prière par la suite. Et quelle ne fut pas ma surprise et ma joie lorsque quelques années plus tard, découvrant les écrits de Sainte Claire et notamment son testament, je découvrais la prophétie de Saint François sur les Clarisses qui reprend ce verset de l'Évangile. Plus tard encore, devenue Clarisse, et évoquant cette heure étoilée avec une sœur de la communauté, je découvrais qu'au fond, loin de m'en douter alors, ma vocation était déjà inscrite au fond de moi. Et cette sœur, qui était présente au partage de la parole, et s'était bien gardée de dire quoi que ce soit, me dit que ce jour-là, elle avait su que je portais une vocation de Clarisse, qui s'est confirmé plus tard.
Merci Sœur Marie-Liesse d'avoir avec simplicité partagé ce moment important de ton itinéraire spirituel. Nous allons poursuivre encore un petit peu avec la quatrième, en vous partageant un passage de la quatrième lettre de Sainte Claire à Sainte Agnès de Prague. Passage qui nous permettra, qui nous introduira, je dirais, dans l'expérience spirituelle de Sainte-Claire et qui n'est pas sans lien avec ce que nous avons évoqué jusqu'ici. Donc, c'est Sœur Claire-Marie qui va vous lire ce passage.
Contemple chaque jour ce miroir, ô Reine épouse de Jésus-Christ, et mire-toi continuellement pour savoir comment revêtir intérieurement et extérieurement tes plus beaux atours? Comment te parer des fleurs de toutes les vertus et des ornements qui conviennent à ta qualité de fille et d'épouse chérie du grand roi? Ce miroir reflète la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité et l'ineffable amour. C'est là ce que tu pourras découvrir avec la grâce de Dieu, sur toute la surface de ce miroir. En haut du miroir, en effet, voici la pauvreté de l'enfant couché dans la crèche et enveloppé de quelques méchants langes. Humilité admirable et stupéfiante pauvreté. Le roi des anges, maître du ciel et de la terre, repose dans une mangeoire d'animaux. Au milieu du miroir, considère l'humilité, c'est-à-dire la bienheureuse pauvreté, les fatigues sans nombre et les injures qu'il a subies pour la rédemption de l'humanité. Enfin, au bas du miroir, contemple l'ineffable amour qui l'a conduit jusqu'à vouloir souffrir sur le bois de la croix et à vouloir y mourir du genre de mort le plus infamant qui soit. Et ce miroir, du haut de la croix, attirait lui-même l'attention des passants sur ce qui devait faire l'objet de leur contemplation. Ô vous tous qui passez sur le chemin, arrêtez-vous et voyez s'il est une douleur semblable à la mienne. À ce cri plaintif, répondons toutes d'une seule voix et d'un même cœur, ton souvenir ne me quitte pas et l'angoisse étreint mon âme. Puisses-tu, reine du roi du ciel, être chaque jour davantage embrasée de la ferveur de cet amour.
Merci, sœur Claire Marie. Alors, il nous reste très peu de temps. Là, l'émission va s'achever. Donc, je vais juste attirer votre attention et faire le lien avec ce qui a été dit précédemment. Donc, toutes ces vertus qui rayonnent, qui font le rayonnement d'une communauté, de la communauté de Saint-Damien, de toute communauté aujourd'hui. Quel est le secret d'un tel rayonnement? Eh bien, vous venez de l'entendre. Le secret est dans la contemplation que Claire et de ses sœurs ont faite chaque jour du Christ. Et du Christ en trois lieux de sa vie, à savoir sa nativité, sa vie publique et sa passion. Les sœurs se sont imprégnées dans la contemplation du Christ des vertus qui en fait rayonnent de lui et qu'il leur a finalement communiqué. C'est la contemplation du Christ dans le mystère de son incarnation, dans la pauvreté de sa vie publique, dans l'humiliation de sa passion. C'est cette contemplation qui a transformé les sœurs, qui a rendu possible cette vie communautaire rayonnante. Voilà, je ne vais pas pouvoir en dire plus, mais je vais laisser à sœur Marie Bruno peut-être le mot de la fin de cette émission.
Nous venons donc d'entendre un extrait d'une lettre de Claire. Et en ce temps de carême et à l'approche de la Semaine Sainte, il me semble que nous sommes invités à nous aussi nous arrêter pour contempler le Christ, spécialement dans sa passion, et apprendre de lui l'amour, l'humilité et de l'amour jusqu'au bout.
Merci, merci sœur Marie Bruno et merci à vous chers auditeurs pour cette émission partagée avec vous.
Merci, un grand merci mes sœurs d'avoir cheminé avec nous sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Esprit franciscain. Nous nous retrouvons le mois prochain.